Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com.
Objectif numérique, épisode 43. Au menu, on répond à une question d'un auditeur, on vous présente plusieurs nouveaux boîtiers, on parle du décentrement à bascule, aussi appelé tilt shift, on donne des trucs sur Google+ pour la photo, et on fait la critique du Canon 70D. Stéphane Vaillancourt au micro, avec mes deux collaborateurs habituels, Christian Jarry.
Salut Stéphane.
François Blanchette.
Et salut messieurs.
Salut.
Bonjour, bonjour.
Et avant de commencer, on va faire un petit appel au vote pour le défi numéro 8 qui porte sur la nuit. Avez-vous fait vos photos de nuit, messieurs?
J'ai fait ma photo.
Oh, François l'a fait. Je dois...
Oui, elle est faite.
Non, moi la mienne n'est pas faite. Comme Christian, d'après ce que je peux voir dans ses yeux.
Non.
Mais ça ne serait tardé.
Non, exact, exact.
Elle va être publiée dans les prochaines heures ou les prochains jours. Comme ça, vous pourrez aussi voter, mais dans un album à part. Ça ne sera pas, évidemment, on ne participe pas comme les auditeurs là, au concours.
Puis nous autres, on gagne quoi?
On gagne le respect des autres membres de l'équipe. C'est bien?
Si, ouais. Si ouais, la photo est belle. C'est pas payé.
Alors, pour le vrai gagnant, celui parmi les auditeurs qui se méritera un prix, on a un prix de Zenfolio, qui est un abonnement d'un an au plan Unlimited, le plan illimité. Donc, c'est une valeur de $60 américains pour l'année, ce qui est quand même très bien. Et comme je l'avais mentionné, je crois qu'il reste encore quelques jours ou quelques semaines pour profiter d'un rabais de 20% en vous abonnant à n'importe quel plan de Zenfolio. Donc, vous tapez numérique 20 en majuscule, sans accent évidemment, et vous profitez automatiquement de 20% de rabais. Merci à Zenfolio.
Merci.
Merci.
Et on va enchaîner avec une question qu'on a reçue d'un auditeur, mais en fait, qui a déjà été un invité sur l'émission, Alexandre Vallière-Lagacé, qui était venu à l'épisode numéro 8. Il était venu nous présenter des accessoires. Et maintenant...
8? Ça fait quand même un certain bout de temps.
Oui, un certain temps. Un peu plus d'un an. Et maintenant, il nous pose une question sur un accessoire, justement, par rapport à des panneaux d'éclairage, je crois. Hein.
En fait, ce que Alexandre cherche à faire, c'est éclairer ses sujets inanimés. Bon, j'imagine que c'est des figurines ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement ce qu'il entend par sujet inanimé, mais... il voudrait augmenter son éclairage parce qu'il sert de deux petites lampes à la maison de 15 ou 20 watts environ, ce qui n'est pas toujours assez puissant. Donc, il voudrait savoir qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme accessoire.
Ah, mais je sais, je crois savoir ce qu'il veut photographier. Ouais. C'est de la photographie de produits.
Ah, OK.
Parce qu'il écrit souvent des
critiques. Ah, pour
critiques.
Son blog.
Oui, pour son blog ou et pour d'autres blogs.
En tout cas, ça ne doit pas être d'enfant parce qu'il parlait d'inanimé.
J'espère, en tout cas.
Ouais. Ce qu'il veut savoir, c'est qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme produit. Effectivement, un petit panneau à Dell ou LED sous le terme anglais, c'est vraiment le produit qui serait le plus pratique parce que c'est des petits éclairages vraiment pas gros qui fonctionnent à la batterie ou dans le courant. Puis ça coûte pas cher, ça coûte... On peut en avoir à partir de 30-40$. Ça fait une belle lumière assez intense. Vraiment, ça profite de la technologie de ces LED-là qui sont vraiment le futur là, d'éclairage. On a encore beaucoup d'ampoules à tungstène ou à filament électrique qui sont utilisées.
Mais... En général, les lumières LED sont plus froides que chaudes aussi.
On peut avoir tous les types de LED de 2000 à 6000, 7000 degrés Kelvin. Ça, on parle de température de couleur. Là. Ça veut dire, quand je parle de 2000, c'est assez chaud. Ça va... par exemple, si on prend par exemple une ampoule électrique traditionnelle à filament, là, c'est autour de 2800-2900 degrés Kelvin. C'est un petit peu plus chaud qu'une ampoule halogène qui, elle est à 3002 souvent la plupart du temps. Ou au tungstène plutôt, pas halogène.
Mais ça, est-ce que c'est indiqué sur l'emballage de ces lumières-là, normalement?
Oui, c'est indiqué. Okay. Généralement, c'est 5600 degrés Kelvin qui va équivaloir à la lumière extérieure. La lumière dehors, le petit setting soleil là, sur vos appareils photo, c'est 5600 degrés Kelvin réglé à l'usine. Puis, à titre d'information, quand on se met sur le nuage, On tombe plus dans les 6000, 5, quelque chose comme ça.
Oui, puis à Londres, c'est 7000.
Oui, autour de ça, ouais, okay. C'est ça. Donc, c'est vraiment le petit panneau LED qui serait pratique à utiliser, mon cher Alexandre. Et en sous-question aussi, en fait, c'est ce que tu viens de mentionner, c'est pour la couleur du LED, on tombe avec quoi? Bleu, jaune? Bon, ben c'est mieux, toujours mieux de prendre une LED à 5600 degrés puis corriger avec un petit filtre si on va à l'intérieur puis qu'on a besoin d'une lumière jaune. Certains panneaux ont une espèce de petite switch qui te permet de... un potentiomètre qui te permet d'ajuster la couleur de la LED. Il y a des LED qui s'ajustent. En fait, c'est une série de LED. Tu sais, il y a une rangée de LED 5006 puis une rangée de LED à 3002. Puis avec le potentiomètre, on joue avec l'intensité entre les deux. Puis c'est comme ça qu'on peut déterminer la couleur qu'on veut à l'output. Ça pourrait carrément être entre 5006 et 3002. On pourrait avoir 4300 degrés Kelvin.
Mm-hmm.
Okay. Puis ça serait parfait. En exemple, puis c'est ça qu'il nous dit aussi, s'il y a de la lumière extérieure qui rentre par la fenêtre chez lui, puis qu'il est éclairé avec des lumières tungstène ou halogène à la maison, il y a un petit problème de température de couleur. Parce que de l'extérieur, ça sort plus bleu, l'intérieur plus jaune. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on peut mettre un petit correcteur justement pour aller chercher le milieu. À peu près autour de 4003, mais ça dépend toujours quelle est la lumière dominante.
Mm-hmm.
Si c'est la lumière de l'extérieur qui entre plus fort, c'est mieux de s'ajouter sur celle-là. Puis le reste va être un petit peu plus chaud, mais au moins son sujet principal, lui, va être dans les bonnes couleurs.
Donc, sinon, il y a toujours à la limite la post-production qui peut régler, aider à régler
ce problème. Un peu plus de travail parce qu'il faut aller zoner ses corrections. Mais si on s'est ajouté sur son sujet inanimé ou son objet, là, ben, puis qu'il est parfait, ben, tant mieux. Mais les autres, si on trouve que son background il est trop chaud, ben oui, on peut aller en post-production arranger ça. Mais tout ça pour dire que oui, le panneau de lumière Adel, c'est vraiment... ce qui est recommandé, c'est vraiment pas cher.
Mm-hmm.
Ça fonctionne à la batterie.
Puis ça dure longtemps, les diodes électroluminescentes.
Oui, ça dure super longtemps.
Mm-hmm. Puis sais-tu quelle grosseur à peu près que tu peux avoir quand tu disais 30
$? Quand je parle de 30, 40, 50 $, on parle souvent des produits chinois qui sont quand même corrects. Là.
Oh ouais.
Si on veut aller du côté professionnel, il faut payer beaucoup plus cher parce évidemment. Que les Dell, ils sont plus justes sur la température de couleur.
OK.
Quand on parle des petits produits moins chers, il y a aussi des Américains qui sont pas chers. La qualité des Dell va être un petit peu moins juste là, sur le degré Kelvin qu'on voudrait. Mais à 50 $, on a un panneau d'à peu près, 10 à 15 cm par 10 cm.
OK.
Quelque chose comme ça. Puis évidemment, grossissant, bien, ça peut coûter un peu plus cher, mais c'est toujours abordable. Là. Franchement, pour la qualité de lumière que ça nous donne, c'est bien abordable. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéographes se servent de cette même lumière pour éclairer quand ils font une petite entrevue en quelque part.
Okay.
Avec des appareils photo ou avec une caméra vidéo aussi. Souvent, on voit ça là, fixé sur le dessus de la caméra. C'est le même type de lumière exactement.
Parfait. Merci beaucoup. Et maintenant, vous avez sûrement entendu parler des nouveaux appareils au capteur plein format de Sony, le A7 et le A7R. Mm-hmm. Eh bien, j'ai eu la chance d'aller... m'amuser quelques minutes, en fait, peut-être 2-3 minutes, parce qu'il y avait beaucoup de gens, mais j'ai pu aller essayer le A7R chez Lozo à Montréal.
Et puis,
je suis passé à deux doigts de le précommander.
Aïe, aïe, aïe.
Mais
à ce point-là. Là.
Oui, mais ma carte de crédit
a refusé.
A refusé le vote.
Le ministère des Finances n'a pas accepté l'offre.
C'est ça. Ben, en fait, c'est pas ça. C'est juste que l'appareil va sortir, début décembre, ce qui n'est pas si loin, mais... Si je veux un objectif 24-70 Carl Zeiss, qui vaut la peine, qui est un F4 fixe, je pense, il sort seulement début 2014. Puis là, je me dis, en attendant, ce qui est merveilleux avec ces appareils-là, c'est qu'ils sont compatibles avec les objectifs de la série NEX actuelle, même s'ils sont au format rogné.
Donc toi, t'en as déjà deux là, en poche?
Trois,
bon.
Mais j'avais celui de base, puis les deux que je me suis payé à ma fête. Ben en fait, ce qui est merveilleux avec les appareils, c'est que ça convertit automatiquement et dans le viseur et à l'écran, parce que c'est un viseur numérique comme sur les NEX, ça convertit au format rogné. Donc, il n'y a absolument rien à faire, rien à recalculer ou quoi que ce soit. Ça va réduire le nombre de
comme si tu regardais au travers l'objectif.
Sauf que tu n'es plus plein format, tu retombes en APS-C, donc là, tu perds l'avantage.
Ça donne pas vraiment l'avantage,
exactement.
Non, mais si tu fais de la téléphoto, c'est excellent.
Oui.
Tu vas gagner.
Oui,
si
oui.
tu veux une un objectif.
Ben, ça va faire
c'est que tu perds pas. Large, c'est que tu perds pas. C'est pas que tu gagnes.
Ben oui,
c'est
tu perds ton grand angle. Si tu veux.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que dans le sens que tu perds pas, ben, l'avantage du téléphoto, c'est parce qu'avec un rogner, un objectif qui est pas rogné, ben, tu vas avoir un peu plus.
C'est
mais
ça.
Là, dans le cas présent, t'as pas vraiment d'avantage. Même ton avantage, qui est d'avoir ton plein capteur, tu le perds.
C'est ça. C'est que ça changerait absolument rien parce que je suis déjà en capteur rogné.
La seule chose qui pourrait peut-être gagner, c'est que j'imagine, j'assume, là, mais probablement que la performance ISO est meilleure parce que c'est un plein capteur. Ou des affaires de même sur ce côté-là, tu gagnerais. Mais sinon, j'avoue que...
Ben c'est ça. Donc là, je me retrouverais à attendre peut-être 2 mois avant d'avoir un objectif. Puis là, je me dis... Je vais attendre.
Puis t'as une nouvelle caméra qui a quand même quoi 6 mois, ton autre?
Un an.
Un an? Déjà?
Oui. Ben décembre 2012.
Hey, donc, c'est vieux.
C'est,
hey, non, mais je vais pas la remplacer. Parce que c'est ça qui est merveilleux. C'est que les objectifs fonctionnent. Mm-hmm. Ceux du NEX fonctionnent sur l'autre. Les piles sont compatibles entre les deux modèles.
Oh, ça, c'est très bien, par exemple.
Oui, donc ils ont bien pensé leur coût. Et
la grosseur, je l'ai vu, ça a l'air...
Oui, ben c'est un peu plus gros que mon Nexus, mais ça se prend très bien en main. Il y a la grosse prise en main, la grosse poignée, si on veut. En fait, d'ailleurs, parlant de poignée, on peut ajouter une poignée à batterie.
Moi, je l'ai vu.
Qui contient 2 batteries cette fois-là. Donc, c'est assez pratique parce que il faut dire que avec un viseur numérique et un écran dont on sert plus souvent, la
ça
batterie vide plus vite.
Mmh.
Donc évidemment, on est loin des performances des batteries comme sur un 7D ou même un Nikon, mettons, D600, D610. Enfin, je vais énumérer quand même quelques petites caractéristiques parce que ce sont des caractéristiques fort intéressantes. Et il y a quelqu'un d'ailleurs qui est venu sur l'émission il y a quelques mois, Benoît Gagnon, qui en a précommandé un, justement, un A7R, et puis il devrait venir faire un petit tour, nous en parler après les fêtes en janvier. Donc, pour commencer, le Sony A7, on parle d'un capteur 24 mégapixels avec détection de phase pour la mise au point automatique. Le A7R, lui, a 36 mégapixels, mais n'a pas de détection de phase, ni de filtre anti-aliasing, si on veut, pour avoir une netteté maximale. Donc, il pourrait, à la limite, y avoir peut-être un effet de moiré dont on parlait au dernier épisode ou à l'avant-dernier. Mais à 36 mégapixels, on s'entend qu'il devrait y avoir assez de lignes et de points pour contrer l'effet de moiré à la base. Donc, ça, le fait de ne pas avoir ces fameux filtres-là enlève pas de netteté à l'image. Donc, on a une netteté maximale. Et c'est un peu pour ça que on parlait d'obsession de la netteté, là, mais c'est pour ça, moi, que j'opterais plus pour le A7R. Par contre, bon, on parle pour le boîtier du A7, 1 700 $ sans objectif, et le boîtier du A7R, 2 200 $ 2 300 $. Donc,
on joue dans les grandes ligues. Là.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Et là, ben, l'objectif que je visais, qui est le Zeiss 24-70 F4, stabilisé, heureusement.
Ça doit être un bon 1 000 $, ça, avec.
1 200 aussi, 1 300. Ah ouais. Donc, on parle de autour de 3 500 $. Ben, c'est pour ça qu'à un moment donné, quand j'ai fait le calcul, j'ai dit « je vais attendre quelques mois pour voir avoir au moins les premières critiques officielles, les tests plus élaborés, vraiment voir...
C'est à savoir s'il va être capable d'avoir un peu le même effet de profondeur de champ comme les pleins capteurs, les autres, etc. Ça devrait, mais
oui,
c'est ce côté-là qui m'intéresse
plus.
C'est
un capteur 24 par 36 mm.
Oui, mais
vraiment...
j'ai quand même hâte de voir. Tu sais, oui. Je suis curieux.
À suivre. Mm-hmm. Toujours dans les caractéristiques techniques, bon, les deux appareils ont un viseur numérique à 2,4 millions de pixels. C'est une version améliorée de celui qu'il y a sur le Nexus, qui est déjà très bien, parce que j'ai posé la question. apparemment que c'est le même qui est utilisé sur l'Olympus OMD EM1, qui est sorti au début septembre. Donc, un bon viseur. Lui, j'ai eu la chance de l'essayer quelques minutes aussi au mois de septembre. Donc, un peu avant la sortie. Donc, très bon viseur. Je viens juste de réaliser en relisant les notes que c'était le même. Ensuite, évidemment, ils sont tropicalisés, les deux boîtiers.
Ça allait être ma question.
Ça allait, bon, tu vois. Alors, j'ai lu dans...
À ce prix-là, hein, tu sais, t'espères qu'il y ait au moins ça.
Ben,
hein.
Tout ouais. Comme j'espère qu'il est en métal ou en...
Oui, oui, en magnésium, en ouais. Alliage de magnésium. Il y a seulement la plaque frontale sur le A7, je crois, qui est en aluminium ou un truc du genre. Mais c'est vraiment une... Ou c'est à l'intérieur, je crois, même du boîtier. C'est même pas à l'extérieur. Donc, c'est vraiment
monde,
minime. Là. Oh, c'est ouais. Ça, c'était probablement pour réduire un peu les coûts de mm-hmm, production. Mm-hmm. Par contre, bon, j'ai pas pu voir ou prendre en main le A7. Mais honnêtement, c'était pas lui qui m'intéressait le plus.
Non,
c'était vraiment le A7R.
Ben, et... honnêtement, pour ce prix-là, c'est quand même pas mal quand tu considères que si on veut aller dans Nikon, dans Canon, le boîtier seul, c'est pas loin de 1000$ de plus, là.
Oui, ben quoi que, remarquez, on va parler du D610 de Nikon dans deux épisodes, et le boîtier du D610 se détaille 2300$, c'est exactement le même prix. Donc, évidemment, je n'ai pas fait un comparatif des caractéristiques. Là, vraiment,
ouais, c'est vrai, moi je pense au A7, mais... c'est vrai, tu as raison, hein, c'est le même prix. Ouais.
Ouais, donc, le A7R et le D610 ont à peu près le même prix de détail. Donc, enfin, à subir.
C'est quand même bien, c'est...
Ce qu'ils ont fait aussi, en fait, ce qui est intéressant sur le boîtier, c'est qu'on retrouve 9 boutons programmables qui donnent 45, ben, qui permettent de choisir parmi 45 fonctions disponibles. Donc, c'est quand même...
Ça, j'aime bien.
Oui, ça, j'ai pas pu...
une bonne mémoire, par contre. Si, j'imagine que c'est chaque bouton est déjà identifié, mais on peut le programmer à faire autre
oui,
chose.
Oui, exactement.
C'est bien.
Donc, t'as toujours le fameux, probablement, le bouton... FN, etc. Mm-hmm. Donc, paquet de boutons comme ça. Les menus, ils ont changé le système de menu parce que ce soit sur les Nex, que ce soit sur les Alpha ou sur l'autre gamme, les Cybershot, je pense, ou je me souviens pas trop, chaque ligne d'appareil avait des menus différents.
Mm-hmm.
Et là, ils unifient le système de menu. Ils ont pris... Oui, et là, j'ai vu les menus. Je vais publier une photo ou deux là, sur le blog. Et c'est pas mal mieux le côté ergonomie
c'était
des menus.
C'était pas
d'un
pire, mais c'était pas d'un meilleur. C'était
non,
correct.
C'était pas les meilleurs parce que c'était pas clair. Dans le Sony Nexus, il y a un menu caméra en haut à gauche, puis un menu paramètres en bas à droite, puis on sait pas lequel fait quoi exactement. Mm. En tout cas, c'est pas clair. Puis moi-même, je me retrouve parfois à dire... Dans quel menu j'étais allé pour changer tel paramètre, puis j'aime pas ça. Tandis que là, si vraiment c'est réorganisé puis c'est mieux pensé, ça va être déjà un gros plus. Ensuite de ça, il y a évidemment une prise casque et une prise micro. Donc, pour ceux qui veulent faire de la vidéo, ça peut être intéressant. Je pense à Benoît Chamontin, souvent, c'est un élément important pour lui quand il magasine ses boîtiers. Ensuite de ça, bon, il y a plusieurs améliorations au niveau de l'autofocus, donc de la mise au point. Il y a un autofocus qu'ils ont appelé le IAF, donc qui peut faire une mise au point sur l'œil et non juste sur un visage. Donc quand on a une petite profondeur de champ, une grande ouverture, l'appareil s'assure que la mise au point soit faite dans l'œil ou sur l'œil plutôt que sur le nez ou sur...
C'est une bonne idée parce que maintenant, les appareils détectent les yeux, les sourires.
Exactement.
Pourquoi pas se servir de ça pour faire la mise au point? C'est une maudite bonne idée.
Oui, oui, absolument. Et puis, bon, on peut changer la taille des points de focus. Donc ça, c'est intéressant justement pour avoir vraiment un point de focus plus précis ou d'y aller plus large, plus gros. Et il y a des zones, il y a une grille de 5 par 5 et on peut choisir des zones 3 par 3 et déplacer la zone où le focus va... La mise au point va être effectuée. Il y a évidemment des connectiques Wi-Fi et NFC. Donc, simplement cogner, si on veut, deux appareils doucement ensemble. Un téléphone Sony, je pense à ça, ou avec l'appareil photo. Et les appareils sont jumelés. Donc, beaucoup plus simple pour le transfert d'image. Mais moi, je pense toujours à ma fameuse petite carte Hi-Fi. Et c'est pas du NFC, mais c'est, comme ils disent en anglais, « the next best thing ». Il y a une sortie photo 4K. Donc, pour les téléviseurs 4K, on peut afficher les photos en format 4K.
Ah,
donc,
ouais.
Plutôt qu'avoir 2 mégapixels comme les téléviseurs actuels, on part d'une image de 36 mégapixels, on l'affiche sur un téléviseur, on se retrouve à 2 mégapixels. Là, avec une sortie 4K, on se retrouve avec 8 mégapixels finalement. Mm-hmm. Donc,
pour les téléviseurs meilleure, 4K. Mm-hmm.
C'est ça, une meilleure représentation de l'image pour ceux qui ont les moyens de se payer un téléviseur 4K.
Ouais, c'est
ouais, il y en a beaucoup
de ça. 10 à 15 000 $ je pense en ce moment.
Oui, environ. Et oui. Il y a des fonctions intéressantes.
On vous salue, ceux qui en ont une.
Oui.
Les trois... pas auditeurs, je veux dire, personne.
C'est ça. Il y a une fonction intéressante de panoramique qui s'appelle le sweep panneau et qui assemble les photos dans l'appareil. Mm-hmm. Ça, c'est génial aussi.
Quand ça marche bien, oui.
Oui, ben ça, malheureusement, je ne l'ai pas testé. Je n'ai pas eu la chance, mais ça sera une...
Tout ce que j'ai à dire sur les photos de panoramique, j'adore ça, mais arrangez-vous pas pour avoir du monde dedans.
Non, c'est un fait.
Si vous voulez pas de visage coupé, de bras manquants ou de choses comme ça.
Mais là, on en avait fait une quand dans iOS là, avec l'iPhone, Apple avait permis de faire ça. François, justement, s'était positionné à trois endroits dans la pièce pendant que je faisais le panorama.
Ça, c'est
et excellent. Puis c'était vraiment drôle parce qu'il prenait des poses.
Je me suis dupliqué.
Oui, oui. Je vais essayer de la retrouver.
On peut servir du bug, finalement.
Oui, ben oui, c'est cool. Ça peut être drôle. Ouais. Au lieu de faire des expositions multiples, on prend un panorama, puis la personne se déplace, puis vient se placer derrière.
La seule fois que j'ai réussi à faire de quoi de bon avec ça, c'est dans un spectacle que j'ai réussi à faire un... avec la foule jusqu'à la scène, ça donne un très bon résultat. Puis à chaque fois, le reste, j'ai jamais été capable de rien faire de bon avec.
Et un autre truc, ça va être probablement le dernier là, que je vais mentionner avant de passer au RX10, qui est un appareil aussi intéressant qu'ils ont lancé. C'est ce qu'ils appellent le multi-frame noise reduction, donc la réduction de bruit sur plusieurs images. Il prend 6 clichés. Et il compare l'image pour voir où il y a du bruit. Donc, parce que le bruit n'est jamais exactement au même endroit selon la réflexion de lumière.
Fait qu'il extrapole pour corriger ta
et
photo.
Et il corrige la réduction, le bruit dans ta photo. Et ça devrait donner, je ne l'ai pas essayé encore, là, mais ça sera quelque chose où je mandaterai Benoît Gagnon, je lui dirai de l'essayer. Puis
le
de
potentiel est là. Ça, j'avoue, ben, tu peux pas prendre de photos qui bougent beaucoup, là, c'est pour
non, non, non.
Mais j'avoue photos, que le potentiel est intéressant.
Oui, surtout que c'est ça, 6 photos où déjà tu as besoin de réduction de bruit, donc c'est parce que tu n'as pas assez de vitesse. C'est sûr que si tu as quelque chose qui bouge, ça sera pas l'idéal.
Exact.
Mais...
Puis si déjà, normalement, si tu as une caméra à plein capteur, l'ISO devrait être relativement assez bon aussi. Fait
ouais.
Que... Non,
mais
je suis quand
verra.
Même curieux.
Mais
quand même
un ISO 12800 deviendrait 1600, 3200. Donc. Ce serait.
Ah, ben, c'est curieux de voir ça.
Oui.
Ouais.
Je vous donnerai un compte rendu là-dessus où Benoît viendra nous en parler. On va lui mettre de la pression un peu.
À peine.
Enfin, ça, j'ai remarqué ça parce que je vais vous parler du Canon 70D tout à l'heure, qui a un mode silencieux, tout comme le 5D Mark III. Le A7 et le A7R, malheureusement, n'ont pas cette fonction-là parce qu'ils ont un rideau physique. Donc, okay. Quand ça prend la photo, le rideau, étant donné le mouvement que ça cause, ça fait du bruit et ça ne peut pas être mis en mode silencieux, contrairement à d'autres appareils. Alors voilà, bon, c'est un premier tour d'horizon là, qui est suite à ma prise en main de 90 secondes. Mais,
Genre, si tu ne l'as pas eu pendant 5 minutes.
Non, en effet, ça, je me disais.
J'ai pris beaucoup de notes pendant qu'il présentait l'appareil
ouais,
aussi.
Ouais, ouais, ouais.
Mais bon, et là j'en ai pris moins sur le RX10, mais on va sûrement l'avoir en test. D'ailleurs, dans tous les nouveaux appareils, c'est un processeur Bions X, donc nouveau processeur, plus performant évidemment, donc pour traiter les images plus vite, meilleur traitement, etc. Donc le RX10 qui va quand même, pour un appareil compact, se détailler 1400$, c'est pas donné, mais ça semble être un excellent appareil aussi. On peut aussi changer la taille des collimateurs, donc pour l'autofocus. Il y a aussi le IAF, donc le focus sur l'œil. Lui, il a 5 boutons assignables, donc programmables. Il est aussi en magnésium et tropicalisé. Il y a une prise micro et casque. Il y a le Wi-Fi, mais il n'y a pas de GPS intégré. Mais sinon, on retrouve des caractéristiques d'un très bon appareil dans un format compact.
Lui, il a-tu...
Donc, c'est un capteur CMOS 1 pouce. 20.2 mégapixels et c'est un objectif fixe en fait qu'on ne peut pas changer mais qui est à 24-200 mm à ouverture constante de f2.8.
Oh, quand même!
Assez impressionnant.
Oh, de 28 à 200 avec ça, c'est quand même bien. Ouais.
Ouais, 24 à 200, mais f2.8 constant, là, oh!
Intéressant.
Oui, à suivre ça aussi.
Ils sont rendus agressifs maintenant, j'avoue. Les
Sony, depuis un an et demi, je dirais, là, même côté téléphone, ils ont sorti un paquet de téléphones. En tout cas, ils attaquent sur tous les fronts.
Oh oui,
puis là, la PS4.
C'est ce que je me dis. C'est exactement ça, ça à quoi je pensais moi aussi. Je me disais, regarde, ben, c'est drôle, moi, quand on était plus jeune, Sony, c'était comme la marque de qualité, puis tout ça. Puis après une couple d'années, ça a comme pris une petite débâche. Il y a une relâche. Pas que c'était mauvais, mais on dirait que d'autres avaient repris le flambeau. Mais là, on dirait qu'ils sont ils ont été pris pieds dans l'orgueil ou quelque chose comme ça, parce que ce qu'ils sortent, c'est quand même très bon. Là, c'est...
À suivre pour tous ces beaux appareils, mais c'est sûr qu'on va
en avoir quelques-uns, j'espère. Bien.
Deux, trois exemplaires. Non. Alors, ben, parlant de Sony, il y a un modèle assez similaire qui vient de sortir. Ben, en fait, qui va sortir.
Oui, qui va sortir. Oui, ben, je ne sais pas si vous saviez, mais il y a une compagnie qui fait des appareils photo, Hasselblad, qui est des appareils photo à 20, 30, 40, 50 000 $ là, dépendant des appareils. L'affaire, c'est qu'ils ont décidé de refaire des nouveaux appareils récemment, mais eux autres ne font pas de capteurs ou rien de ça. Ils utilisent ceux des autres. Or, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris l'appareil, le Sony A7, et ils ont changé le design, et ils le vendent 5-10 000 $. Mais c'est le même appareil. Non, en fait, c'est pas vrai. C'est pas le même appareil. Il est 10 fois plus laid. Je veux bien, mais sincèrement, là, j'avoue que je comprends vraiment pas le design et je ne suis pas le seul. C'est assez unanime sur Internet à qu'est-ce qu'ils ont pensé avec ce design-là. Je mettrai quelques photos, pas juste de lui, le Lunar, mais il y en a quelques autres, là, je ne me rappelle pas des noms exacts, là, mais c'est avec du bois, genre rare déco, des formes étranges, ça a l'air de... plus de quelque chose qui serait dans le musée d'art contemporain qu'un appareil photo, là, c'est mais assez weird.
Si le fond, il doit avoir une demande pour ça, c'est un peu comme l'iPhone 5S Gold. Personnellement.
Ouais, non, moi non plus, mais. Ouais, mais ça me surprend pas, c'est du bling-bling. Ça me surprend pas, mais l'autre, j'ai plus l'impression que c'est vendu parce que c'est cher. Pas parce que c'est nécessairement bon. Ouais, c'est
des gens
que
qui veulent flasher, qui ont les moyens, qui sont chanceux, tant mieux pour eux.
Oh, exact.
Ils veulent dire, ben voilà, j'aurais pu me payer le Sony, mais non, j'ai le Hasselblad.
Voilà, mais c'est le même appareil. Yo. Tout ce qui est les composantes physiques, il n'y a aucune différence, quel qu'il soit.
Eh bien, j'espère que la garantie est prolongée quelque peu.
Je ne gagerais même pas avec toi là-dessus. Sincèrement.
Eh bien. Et d'ailleurs, il y a Nikon aussi qui a lancé
un autre mise à jour. Dans le fond, on avait le 5200 qui, à ma connaissance, quand même pas. Le Nikon 5200 n'est pas si vieux que ça.
Non.
Je dois avoir quoi, peut-être un an, même pas sûr que tant que ça. Mm-hmm. Mais en tout cas, ils sont déjà rendus avec le 5300.
OK.
On parle d'un capteur 24 mégapixels, ISO de 100 à 12800. 5 images à la seconde, 39 points d'autofocus. Ça me semble, de ce que je lisais, bon, c'est une mise à jour. Il y avait quelques petites affaires, je veux pas dire des problèmes, mais...
Moi, ouais, c'était pas comme un problème comme le D600.
Non, exactement, non. C'est quelques petits... Je cherche le mot, là, mais des petites affaires qui agaçaient des gens, tout ça, qui ont corrigé ou quelque chose comme ça. Puis c'est juste un modèle incrémental. Fait qu'il n'y a pas énormément de différence. C'est pas
des
mal.
Des améliorations.
C'est ça, exactement.
Pour plaire.
Parce que pour ce qui est du prix, c'est à peu près la même chose. On parle de 800 $ américains seulement pour le boîtier.
Mm-hmm.
C'est ça. Honnêtement, c'est ce que je lisais, c'est. Pas mal la même chose, mais améliorée. Parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de nouveau capteur, il n'y a pas de rien de ça. C'est quelques petites améliorations sans plus. On s'en plaindra pas pour ceux qui ont en acheté un.
Ou les gens qui hésitaient justement à passer au 5200, ben maintenant, ils auront le 5300. Bon, parfait, merci. Là, on va revenir plutôt du côté des applications. On avait parlé il y a quelques épisodes de. La vague de Vine et compagnie, et on était plutôt sceptiques quant à leur utilisation plus sérieuse, si on veut.
Ben, c'est... On est vraiment... on est lancé là-dedans maintenant, là, dans les applications vidéo, parce qu'on connaît tous le succès d'Instagram, par exemple. Ça fait déjà un petit bout qu'on en parle. Les gens l'utilisent énormément. Facebook les a même achetés, je veux dire. C'est une indication très évidente que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc, la tendance est à la micro-vidéo mobile, c'est comme ça qu'on appelle ça.
OK.
Micro-vidéo mobile.
Oui, c'est ça.
C'est quand même joli, je trouve.
Oui, ben c'est ça que c'est, en plus. Ça le décrit super bien.
Ouais.
Vine, Instagram aussi a embarqué là-dedans, j'en ai parlé.
Mais les premiers, c'était Cinemagram, l'application. Hein?
Oui.
Ben, c'était dans le même genre, mais on pouvait animer seulement qu'une portion d'image.
Oui, il fallait
rester
mobile, je pense.
Ouais.
Mais...
ouais, c'était joli, ça, par exemple. J'haïssais pas l'effet. Comme j'avais déjà dit, j'avais vu, c'était juste une photo, puis tu avais une petite goutte d'eau qui descendait.
Ouais.
C'est juste ça, ça faisait très joli.
C'était un peu comme se créer un GIF animé.
Oui, oui, ben c'était ça, oui.
Puis, ben c'est ça, Dailymotion Camera aussi, c'en est une autre application, tu sais, qui s'est lancée là-dedans. Donc, évidemment, il y a d'autres gens qui ont décidé de viser ça, dont nul autre que YouTube. Les fondateurs de YouTube,
okay.
Chad Hurley, Steve Chen, ils proposent leur propre application qui s'appelle Mixbit. Là où elle est différente, parce que c'est souvent là aussi que quand on se lance un peu en retard sur les autres, on veut faire quelque chose de différent.
On doit offrir quelque chose de différent,
sinon,
ou supérieur.
Pourquoi qu'on ferait ça? Sinon, eux autres, ce serait un peu plus posé. Ce qu'ils font, c'est qu'ils offrent de filmer des séquences de 16 secondes. Et sans filtre, là. Il n'y a pas d'histoire de filtre comme sur Instagram ou sur les autres. Ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on peut réaliser un petit montage jusqu'à 256 séquences pour avoir un total de 68 minutes maximum.
Quand même. C'est
donc, on peut réaliser carrément des films. Oui, c'est ça. Ce qui est aussi intéressant avec cette communauté-là, c'est que tous les petits bouts de films qu'on va envoyer sur le site fait partie d'un... C'est un peu le genre de Borg, là, t'sais. Tout le monde peut utiliser les informations qu'on a envoyées. Donc, ces petites séquences qu'on a envoyées... Par exemple, Christian, tu pourrais dire « Hey, j'aime ça, cette petite séquence-là, je la reprends, puis je vais refaire mon petit film à moi avec une petite séquence ou deux que François a faite. »
C'est un peu comme participer à une grosse œuvre du domaine public. Là, si
oui,
tu veux.
Exactement.
Une espèce de mosaïque vidéo ou whatever. Ah,
ouais.
Oui. C'est intéressant.
Puis par exemple, il faut accepter que son œuvre puisse être remixée.
Oui.
C'est ça aussi l'autre côté de la chose.
Ouais.
On a accès à une banque d'images vraiment... éclectique, mais d'un autre côté, il faut accepter
que... ce qu'on dit en anglais, c'est du give and take. Tu en donnes, tu en reçois.
C'est exactement ça. D'ailleurs, l'idée de la communauté comme ça, il y a quelqu'un chez Airbnb, le fameux site de location d'appartements, qui a eu l'idée de faire, comme petite vidéo de promotion, un genre de scénario qui serait utilisé par plusieurs utilisateurs avec Vine.
Mm-hmm.
Vine qui permet, lui, juste 6 secondes, okay, chaque séquence. Il s'est dit, je vais faire un scénario, le réalisateur en question, et je vais l'envoyer, grâce à Twitter, à peut-être une centaine d'utilisateurs de Vine les plus prolifiques sur le site.
Okay.
Puis il leur a dit, tiens, toi, tu vas faire telle séquence, toi, ça va être tel plan, j'ai besoin de telle prise de vue. Il a distribué ça à peu près à une centaine de personnes, ce qui a donné un petit film de 4 minutes 30 secondes. Le sujet, c'est une feuille de papier, la vie d'une feuille de papier.
Oui, je l'ai vu, c'est vrai, c'est beau quand même,
oui.
C'est super beau.
Écoute,
avec la musique ajoutée en arrière-plan, là, c'est vraiment magnifique.
C'est ça. Les gens, ils venaient de partout, ceux qui ont fait ça, San Francisco, Hong Kong, même le Koweït. Donc, c'est un projet mondial, si on peut dire. Puis, c'est original, puis Airbnb, ben, eux autres, ça se souscrivait dans leur façon de voir les choses, c'est-à-dire que c'est une communauté mondiale, puis blablabla.
Ouais.
Fait que c'est vraiment une petite vidéo intéressante, effectivement.
Et vous pourrez trouver le lien dans les notes d'épisode.
Et oui, et l'application est disponible sur iOS et Android. On parle toujours de Mixbit.
Bon, mais merci François. On va passer à Christian maintenant qui a des trucs à nous donner sur l'utilisation de Google Plus pour la photo, parce que François avait fait, pour ceux qui ont manqué le dernier épisode, François avait donné des trucs en fait pour publier des photos sur Facebook.
Je dirais des trucs, c'est plutôt, je dirais, plus des spécifications, des particularités que Google Plus offre versus Facebook.
Parfait.
Comme par exemple, une que je trouve qui n'est pas mineure, on parlait que maximum qu'une photo peut avoir la largeur maximale pour Facebook, c'est 700 pixels. Dans le cas de Google+, c'est 2048.
À peine plus.
À peine.
Mais donc, sur Facebook, on peut la téléverser à 2048, mais elle va être redimensionnée.
C'est ça. Exactement. Tu ne pourras pas l'avoir plus grosse que ça. Mais... Oh, oui.
Même si on sélectionne HD? Ou...
Pas d'après ce que j'ai cru voir.
OK. Ah, je suis pas sûr. Moi,
ben, ça se peut. Regarde, vous savez comme moi que là, tu sais, moi, l'article que je tombais, c'était plus pro Google Plus. Ouais. Fait que ça veut pas dire que. Puis ça datait quand même de quelques semaines, fait que quelques mois. Fait que tu sais, je veux dire, bon, peut-être que ça a été réajusté, mais après autres, ce qu'ils disaient, c'est vraiment pour la qualité, c'est vraiment pas la même chose.
Non, ben, je suis d'accord. Puis c'est pour ça que moi, j'ai décidé de mettre la communauté sur Google Plus et non sur Facebook. Parce que les images ressortent beaucoup mieux.
Oui, oui, ben, ça fait consensus, Google Plus, pour les photographes, de ce que j'entends.
Oui,
parce que c'est une autre place où ce que tu te laisses encore désirer, là. Mais, oui. Donc, c'est ça. Puis, la différence aussi, c'est que sur Google Plus, on peut téléverser des RAW, ce qui n'est pas le cas de Facebook.
Mm-hmm.
Il parlait aussi, c'est ça, grâce au savoir-faire de Nick Photographie, que je ne connais pas moi-même, mais ils ont beaucoup amélioré la conversion de RAW à JPEG en ligne pour au-dessus de 70 boîtiers.
OK.
Ce qui n'est pas mineur, là. Mm-hmm. On voit vraiment que Google a mis une grosse, grosse emphase par rapport à ça. Les albums sont, à mon opinion, beaucoup plus jolis, moins banal que ceux de Facebook, que c'est juste passer d'un album à l'autre, passer d'une photo à l'autre. On parlait déjà dans le passé aussi de pouvoir créer ton cercle avec tous les photographes que tu connais, de pouvoir les partager, ces cercles-là aussi. Oui. Ça, je pense que c'est
là. Ça, c'est génial.
Moi, j'avoue que ce côté-là, c'est absolument génial.
Moi, j'ai déjà partagé, j'ai un cercle d'à peu près 400 personnes amateurs de photos et je l'ai partagé déjà avec 3 ou 4, si c'est pas plus, là, au moins 3-4 autres personnes. Puis tu dis juste, partager ce cercle avec telle personne et boum, tu te retrouves avec 400 nouveaux...
Et voilà.
Tu étais abonné à 400 nouveaux comptes d'un seul coup pour voir les photos et tout ça, donc...
Non, c'est... Ouais, c'est...
Tu pourrais en profiter, François.
Oui, oui. Je vais y repenser.
Ouais, on s'en doute. Puis non, c'est ça. Puis en général, bon, pour beaucoup de points, bon, ça reste quand même un peu semblable. Entre autres, quelque chose que beaucoup de monde n'ont pas pensé, mais la nudité est... prescrite sous Facebook, et c'est la même chose sur Google+.
Proscrite,
excusez-moi. on n'a pas plus le droit ni d'un côté ni de l'autre, quelque nudité que ce soit. Ça, je trouve ça un peu dommage. Je peux comprendre la pornographie, mais tant qu'à moi, il y a une différence entre la pornographie et la nudité.
Ouais,
mais bon.
Ils veulent pas se retrouver à être
C'est correct.
À être le juge de où se trouve cette ligne-là.
Je trouve que là-dessus, mettons, comme Flickr est beaucoup mieux, ou ce que moi, exemple, j'en ai quelques-unes des photos de nus. Puis, tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu le spécifies. Puis, ce n'est que les abonnés de Flickr qui peuvent voir ces photos-là.
D'ailleurs,
trouve que c'est un bon
YouTube
compromis.
Le fait aussi. Du contenu 18 ans et plus, Google Plus pourrait très facilement le faire parce que, tu sais, il pourrait exiger que tu sois membre et que tu acceptes tel contenu.
Oui, puis, tu sais, je veux dire, au pire des cas, on l'a tous fait ou on l'a tous vu. Si quelque chose que t'aimes pas, tu fais juste la rapporter, tu le dis, ben là, tu dis, OK, ça devrait être du contenu 18 ans et plus, c'est tout.
Oui.
Puis si la personne le fait trop souvent, ben à ce moment-là, tu lui sers un avertissement, tu dis là, arrête.
Ouais.
Mais bon.
Enfin.
Fait que c'est ça. Non, en général, bon, c'est ça. C'est pas mal ce que Google offre là, de mieux versus Facebook.
Il y a des retouches, des outils de retouche.
Oui.
Qu'on peut, même il y a de la retouche automatique. Il y a une espèce de petite baguette magique là, dans le coin quand tu téléverses une photo. Puis il faut faire attention parce qu'au début. Ce paramètre-là, moi, il était activé par défaut. Puis là, tu envoies ta photo, puis là, tu dis, ça sort pas tout à fait pareil. Puis là, hop, la petite baguette magique est en surbrillance. Là, tu vois qu'elle est activée.
Ah, j'avais jamais
par
remarqué,
défaut.
Oui.
Oh, mais ben, c'est honteux.
Là, ça vient. Là, il est plus convaincu.
Oui, c'est
venir,
ça.
Là.
Mais là, après, tu trouves le paramètre, tu le désactives.
Je l'avais même pas remarqué.
Oui, tu peux faire tes retouches vraiment manuellement. Ou
ça, je l'avais vu, mais je parle l'automatique pour la retouche.
Google Plus suppose que les utilisateurs sont pas bons finalement, puis impose sa propre correction automatique.
Ou peut-être que je l'ai activé sans m'en rendre compte.
Je pense que oui, parce que.
C'est ça, peut-être que je l'ai activé sans m'en rendre compte au début des vidéos.
C'est
de
le technophile,
Plus,
hein, lui, il connaît pas toujours tout. Là.
Non, mais moi, j'essaie tout.
C'est pas le photophile.
Ah, c'est ça. Non, je trouvais ça moche un peu comme nom.
Photophile, j'avoue, hein, ça. Non.
Je trouve que ça ferait beau nom de commerce, moi. Viens chez Photophil.
Viens faire la file mon chez nom, Photophil. C'est...
Oui, viens voir Phil. Bon.
Trêve de plaisanterie.
Ça dérape.
Ouais. Parfait. Ben merci, Christian. François, toi, tu vas nous parler de décentrement à bascule.
Mais qu'est-ce que c'est? C'est le fameux terme « tilt shift ». On a pas mal tous entendu parler. Si vous n'avez pas entendu parler, vous ne savez pas de quoi je parle, vous savez sûrement un peu c'est quoi l'effet. Si vous regardez sur votre smartphone, sur votre Instagram, vous allez le voir à coup sûr, c'est l'effet de flou dans certaines zones de la photo. Une
miniaturisation, entre autres, je pense qu'il utilise.
Un effet de, de miniaturisation.
Oui, mais ça, c'est un des effets que l'objectif permet de faire. Donc, c'est un objectif. À la source, là, c'est ça. C'est un objectif qui a fait cet effet-là, puis il a été répliqué par des logiciels. Instagram l'a rendu extrêmement populaire, cet effet-là. C'est le fait de dire, je sélectionne une zone dans la photo qui va être au foyer et pas le reste. En haut, en bas, sur le côté, c'est l'espèce d'effet d'avant-plan puis d'arrière-plan flou alors que le centre de sa photo va être au foyer.
Ouais.
Donc, l'objectif, ce qu'il fait, c'est exactement ça. À l'origine, ça a été créé aussi pour... Comment je pourrais dire, replacer des lignes de fuite, les remettre plus droites. Par exemple, je prends un building.
Une correction de perspective.
Oui, exactement ça, mon cher Stéphane. Une correction de perspective d'édifice, puisque c'est assez facile à visualiser que je parle d'édifice, mais bon, ça peut être n'importe quoi qui est une ligne qui fuit vers le haut. Des fois, on aime ça dans une photo, une perspective où des lignes se rejoignent. Tu sais, on est au loin, on va avoir l'impression d'une grande, grande profondeur de champ grâce à ça. Pas une profondeur de champ, mais une profondeur de cadre. Ouais, c'est ça. Mais bon, moi, disons que je suis engagé pour faire des photos d'édifices. Et puis, évidemment, l'édifice, on se retrouve au pied de l'édifice pour faire notre photo. Quand on pointe l'objectif vers le haut, ben là, les lignes convergent. L'édifice, il paraît croche vers le haut.
Mm-hmm.
Avec l'objectif, selon l'angle qu'on va prendre, on peut corriger un peu cet aspect-là. Un bel exemple, c'est... une photo que vous pouvez voir sur le site d'Objectif Numérique, c'est la photo de Hong Kong, prise du Mont Victoria, du Victoria Peak, qui est un peu plus haut que le centre-ville de Hong Kong. Quand on utilise cet objectif-là, on peut corriger la perspective des buildings, ça va être plus droit. Alors, on le voit super bien sur la photo. La mode aussi est auto-look maquette, comme tu disais, Christian. Mm-hmm. Ce que cet objectif-là permet de faire aussi, c'est donner l'impression que on transforme le monde en petite maquette ou en petit jouet.
Mm-hmm.
Il y a eu nombre de vidéos qui ont utilisé la technique aussi avec cet objectif-là. On voit un petit bateau sur l'eau. Puis en plus, on accélère la vidéo. Fait qu'on a l'impression que c'est un petit jouet, une petite baignoire. Tu vois l'eau qui bouge vite. C'est vraiment impressionnant ce qu'on peut faire.
Ah oui, l'effet est vraiment intéressant.
Quand c'est bien réalisé, qu'on a bien maîtrisé la technique, c'est fou ce qu'on peut obtenir comme effet avec ça. Donc, c'est en corrigeant la perspective, c'est un des effets qu'on peut obtenir. Pour que ça soit bien réussi, ça prend vraiment un avant-plan et un arrière-plan flou et notre sujet qui est autour du centre de la photo.
Oui, ça peut être décentré un peu vers le bas ou vers le haut. Mais
du moment que on a l'impression qu'on... En fait, pourquoi que ça a l'air d'une maquette, c'est qu'on a l'impression qu'on est en mode macro.
Mm-hmm.
Puis en mode macro, on a zéro profondeur de champ. Donc, c'est ça que ça permet de faire, cet objectif-là aussi.
J'ai vu des photos avec 40 prises de building. Ben, tu disais Shanghai, mais...
Hong Kong.
Hong Kong, excuse-moi. Je pense que c'était Shanghai ou une ville asiatique. Puis on voyait des autobus à terre, puis tu avais vraiment l'impression que la personne était juste au-dessus d'une maquette, prenait des photos comme ça. C'était incroyable l'effet, là.
Ouais.
C'était vraiment cool, vraiment.
Ah ouais, puis les gens repoussent de plus en plus, là. Si on combine tilt-shift et time-lapse, Stéphane, comment qu'on dit déjà?
C'est la photographie d'accélérer, quelque chose comme ça.
En tout cas, c'est de prendre une photo à toutes les X secondes et puis d'assembler ça après en film. Mm-hmm. Donc, ça va donner un film accéléré. On voit souvent ça sur les photos de ciel étoilées, cet effet-là. Quand on combine ces deux effets-là ensemble, on tombe sur quelque chose que je viens de voir cette semaine. C'est absolument éblouissant, nouveau, rafraîchissant, impressionnant. Il faut aller le voir. Le lien est sur le site, encore une fois. Allez voir ça sur notre page, c'est vraiment quelque chose. Je vous laisse le découvrir. C'est quelque chose qui est vraiment nouveau, là. Ça n'a pas été encore testé.
Ben en gros, c'est que ça donne une impression de maquette. Pas trop... Non, c'est ça.
Ben je peux, si mais je en le décris, mouvement. C'est ça. Si je le décris, donc on a un time-lapse, donc Donc, on a un genre de vidéo accélérée et l'effet de tilt shift qui change.
Oui, c'est ça.
Donc, on a des zones de focus qui entrent puis qui sortent de focus. C'est vraiment, il faut le voir. C'est dur à décrire. Allez le voir, je vous dis, je vous en prie, allez le voir. Un autre, puis tant qu'il est dans les nouveautés puis tout ça, un petit vidéo aussi que je suis tombé dessus cette semaine qui est le time-lapse, encore une fois, l'effet vidéo accéléré, et le light painting qu'on a déjà parlé aussi un petit peu rapidement. Peut-être que ça pourrait être un bon sujet les
émissions. On y reviendra.
Oui, c'est ça. Je vous invite à aller voir ça. Le lien est encore une fois sur notre page. C'est un gars qui a fait du light painting avec un squelette qui fait du skateboard. C'est super bien fait. C'est un projet qui a duré un an à réaliser. Aïe. Et ça paraît. Et c'est bien fait. Je vous invite à aller voir ça. C'est vraiment super. Moi, j'ai ces deux vidéos-là que je viens de vous parler, là, ça a été mes plus beaux vidéos de la semaine là, que j'ai vu passer.
Parfait. Ben merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Amusez-vous avec la tilt shift. C'est vraiment le fun.
J'aimerais bien, j'ai vu le prix, j'aime moins.
Oui. Oui, ben, en attendant, tu peux prendre Instagram.
C'est moins cher.
Un objectif à décentrement à bascule, là, on parle d'au moins...
On tourne autour de 2 000 $.
Moi, j'allais dire de 1 500 à 2 000 à peu près.
Tiens, ceci étant dit, on peut utiliser un autre truc qui s'appelle Lens Baby, qui est une espèce de tube qui peut se plier d'un bord ou de l'autre.
Oui.
Ça va donner sensiblement les mêmes effets avec beaucoup moins de précision et probablement de qualité aussi.
Oui, c'est plus flou l'image avec un lens.
Mais vous allez avoir de quoi expérimenter quand même. Mm. Je vous invite à aller voir les prix. Ça, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est beaucoup moins cher. Ouais. Ça se trouve beaucoup moins cher.
Parfait. Et maintenant, concluons l'épisode avec la critique du Canon 70D.
Ouais.
Messieurs, si je n'avais pas un Canon 60D et une Nexus, je serais propriétaire d'un Canon 70D.
Ok, t'as vraiment flashé dessus, là?
Oui. Ben écoute, Christian l'a essayé il y a quelques semaines au podcast All Stars.
J'ai été très impressionné.
C'est quelque chose.
Mais je veux dire que la pertinence de la 7D a commencé à être très, très révolue.
Sérieusement? Oui, mais attends, on n'est pas dans la même gamme, là.
Justement. Oui, c'est ça le problème.
Le 7D, la gamme du 7D vient d'être mélangée. C'est vraiment
Il va sortir quelque chose, j'imagine, dans la gamme du 7D.
J'ai vu encore des rumeurs cette semaine. Ça s'en vient.
Il faut, parce que selon la nomenclature, on n'est pas dans la même...
Non, c'est ça. Ben, il reste des affaires qui sont pas, tu sais, je dirais, pas tropicalisées.
Elle l'est, mais elle n'est pas...
pas autant, disons.
C'est pas comme une 5D Mark III. Là,
ou une 7D.
Mais ça résiste à la poussière et à l'eau un peu, là, mais c'est pas à toute épreuve. Là. Par contre, bon, il y en
a... pas en magnésium non plus.
Non. Mais bon. On est habitué, c'est le même poids à peu près que la 60D ou qu'une 7D. C'est à peu près.
C'est moins lourd.
C'est moins lourd qu'une 7D, mais c'est similaire à 60D.
Oh, oui,
je dirais.
Tout à fait.
Mais on a processeur DigiC 5+. On a capteur de 20,2 mégapixels. Capteur APS-C, évidemment. Un système d'autofocus à 19 collimateurs de type croisé. Donc la 60D en a 9, je crois. Et celle-là, c'est 19, et ils sont tous ce qu'ils appellent cross-type, là, donc vidéo du 80p à 30 images seconde, 720p à 60, mode rafale de 7 images à la seconde, ce qui est quand même très intéressant.
C'est juste un moins que la 7D.
Oui, ça se rapproche, c'est ça qu'il veut dire. Plage ISO 100 à 12 800, 25 600 en mode étendu, et l'ISO très amélioré par rapport au 60D.
Et au 7D.
3200, très, très net.
Ah ouais.
C'est impressionnant.
Mais il faut dire que, tu sais, le 60D, je ne sais plus trop, mais le 7D, c'est vieillissant.
Oui, ben, c'est ça, presque 3 ans.
3, c'est ça.
Ça fait 4 ans, c'est 2009.
Bon, le 60D, c'est 3 ans.
On va le lâcher un moment donné, notre 7D, là, tu sais. C'est sûr, là, tu sais. On l'aime beaucoup, là.
Mais... Ben, la mienne, elle va toffer jusqu'à temps qu'elle meure, là. Mais sinon, ben, je suis d'accord avec toi, oui. Il faut que Canon la passe, mais je voyais justement cette semaine, là, la dernière rumeur la plus plausible parlait d'un appareil à 23-24 mégapixels, 12 images à la seconde, deux processeurs, Qu'est-ce que je lisais?
Ben, il n'y a pas déjà deux processeurs dans la 7D,
ouais.
Justement?
Oui, ouais, c'est ça.
Ouais.
Puis, il parlait de le système d'autofocus de la 1D Mark X. 1DX.
OK.
Ce qui serait logique, soyons francs, parce que si tu veux, ce serait pour des photographes de sport.
Ouais,
fait
ouais.
Que ça ferait bien du sens.
Mm-hmm. Bon, évidemment, on trouve prise microphone, prise pour déclencheur à distance, sortie mini HDMI, un port mini USB et Wi-Fi. À configuration multiple. Mais ce qui est le plus intéressant là-dessus, c'est la mise au point. C'est... Hein?
Incroyable.
C'est silencieux,
j'ai
c'est rapide,
j'ai aucune idée de...
c'est malade. Okay. Sérieusement, c'est malade.
Je, mais regarde, je suis pas... Tu sais, je veux dire, been there, done that. Là, j'en ai vu, j'en ai fait. Puis lui, il m'a dit, tu vas voir la mise au point. OK, regarde. Tabarnouche. C'est... Puis elle est juste... Elle est souvent très, très bonne, très rapide.
Sérieusement.
C'est pas le meilleur objectif là, qu'on avait dessus. Là. C'est pas rien d'exceptionnel. Là.
Ben non, j'avais mon Sigma 1650. Là, qui est,
c'est un très bon objectif. Oui, mais ça, je veux dire, c'est pas...
J'avais pas une 24-70 à 1500$.
C'est ça, là.
Puis j'avais pas l'objectif non plus, les nouveaux objectifs STM, Step Motor. Canon me l'avait prêté.
Mais ça, c'est principalement pour la vidéo. Hein?
Non,
les
non.
Step Motor, non.
Ben c'est que c'est silencieux
okay,
et c'est rapide
ça.
Aussi.
Ouais, ouais, ouais.
Et regarde, c'est... Je sais pas comment le décrire. Il faut vraiment l'essayer. Mais ça, c'est le jour et la nuit avec n'importe quel autofocus que j'ai essayé à date. C'est incroyable. Mm. Et c'est pour ça, quand on est allé au podcast All Stars, j'avais apporté le 70D, mais j'avais mis mon objectif Sigma pour voir justement faire un test en disant « Si je change juste mon boîtier, ben, je risque de conserver mon objectif, puis je vais voir comment ça fonctionne. » Puis la mise au point était rapide quand même. En plus, bon, il y a un mode silencieux. Tu peux avoir une rafale de 3 images la seconde, je pense, en mode silencieux. Ben, c'est silencieux, on s'entend. Là. Ça réduit à peu près le son de 30%, je te dirais. Là. C'est pas comme... La
ouais,
5D c'est... Mark III faisait plus
oui.
silencieux que ça.
Ouais, mais ouais.
Mais c'est quand même ça. Tu sais, c'est ce bruit-là de moins. Quand tu es justement dans un mariage, une église ou un truc du genre pour des animaux, ben, parfois ce 25-30%-là peut faire la différence entre l'animal qui se sauve ou pas.
Ouais.
Enfin, donc c'est ça, le fameux capteur à double pixel qui permet bon une super mise au point rapide et précise. Je peux dire que ça fonctionne et en photo aussi, là, c'est pas juste pour la vidéo, là, c'est vraiment instantané. T'es directement au focus sur à l'endroit où tu l'avais mis, puis ça va vite.
Ouais.
Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu te mets en mode live view, c'est que là, l'autofocus travaille aussi. L'autofocus va aller tout de suite chercher, mais c'est pas aussi bruyant ou ça va pas autant travailler que sur un autre appareil je sais pas moi, la 7D, ce qu'elle fait. Non, mais disons la T5i, ouais. C'est sûr, elle fait l'autofocus...
Pas en live view.
La T5i, non?
Je parle pour la 7D.
Pas la 7D, mais non. Pour ça, la T5i,
ouais,
T4i et compagnie le permettaient. Puis c'est ça, moi, tu vois, en vidéo avec la 60D, tu tombes à l'écran en mode live view, t'as pas d'autofocus.
Ouais,
ou
c'est complètement manuel.
Ouais. Mais là, tu tombes en live view, en vidéo, l'autofocus se fait, tu tournes, tu sens à peine une mini vibration là, dans le boîtier, mais t'es déjà rendu... La mise au point, c'est déjà faite sur l'autre sujet.
Imagine avec un objectif STM que ça aurait
l'air. Ben, je l'ai essayé aussi. Je l'ai essayé ici, pas ce soir-là au podcast All Stars, mais je l'ai essayé ici sur place, puis c'est vraiment génial. Là, tu te tournes, puis t'as même pas fini de te tourner, que le focus est déjà fait. C'est incroyable. Bon, le boîtier a été changé quelque peu. À l'arrière, bon, ils ont replacé certains boutons. Mais ils ont ajouté un bouton sur le dessus du boîtier qui est très intéressant et qui permet de sélectionner le type d'autofocus. Donc, que ce soit par zone, sur un seul point, ou en sélection automatique d'un point ou d'une zone ou de plusieurs points. Et c'est quand même assez pratique. Je l'ai essayé à quelques reprises. Bon, moi, je préfère toujours travailler avec un seul point d'autofocus, puis je recompose à la limite légèrement.
Mm-hmm.
Il y a des gens qui vont préférer travailler avec une espèce de grille d'autofocus ou des zones, là, disons. Des...
Moi.
Oui, bon. Mais je suis sûr que je m'habituerais aussi. Là, c'est...
Avec les cross-types, c'est très,
oui,
très,
oui.
très, très commode.
Ben, c'est ça. Donc, là, déjà, on a cette option-là. Et à l'arrière du boîtier maintenant, il y a une espèce de petit levier pour passer en mode vidéo, alors que le mode vidéo se trouvait sur la molette des modes avant. Mm. Et c'était excessivement laborieux parce que la molette des modes se barre sur le 60D. Ouais. Et là, il fallait tenir le petit bouton, tourner la molette complètement à l'opposé parce que le mode vidéo avait été mis complètement à l'autre bout. Et en tout cas...
Je me suis trouvé beaucoup plus à l'aise à l'utiliser ayant la 7D que la 60D.
Oui.
Parce que moi, comme tu dis, beaucoup des choses étaient très, très, très semblables. Certaines étaient améliorées aussi sur le placement de certaines choses. Oui.
Ils ont bien fait
leur travail.
Oui, ils ont bien amélioré l'ergonomie. Et bon, l'écran de son côté, c'est tactile, pivotant. Oui, c'est ça. C'est tactile, pivotant et tout ça. Mais c'est pas tactile quand on est simplement en mode où il affiche l'information là, d'exposition. Ça devient tactile si on appuie sur le petit bouton de la lettre Q, donc le Quick Access, là, les quick Menu. Et à ce moment-là, là, on peut appuyer où on veut sur l'écran pour sélectionner tel ou tel paramètre. Quand on est en mode Live View, évidemment, l'écran est automatiquement tactile pour qu'on puisse sélectionner le point où on veut faire la mise au point, justement. Mais j'ai trouvé ça bien qu'ils aient pensé au fait que si on était juste comme ça avec l'appareil dans les mains, que l'écran ne soit pas tactile, parce que si on s'appuie le nez ou le visage et que l'écran est tactile, là, ça pourrait changer des paramètres. Donc, il faut vraiment appuyer sur le bouton Q avant pour pouvoir le faire passer en mode tactile. Bon, c'est toujours l'écran similaire là, de 3 pouces ou 7,62 cm qui affiche 921 000 points. C'est pas mal ça. C'est à peu près le même écran, à part l'aspect tactile là, que celui qu'on retrouve sur le 60D. Côté Wi-Fi, ça, c'est intéressant, c'est que on peut s'en servir comme télécommande, un peu comme avec le fameux bidule là, que j'avais testé il y a quelques épisodes, mais qui se branchait dans le sabot là, de l'appareil photo, le sabot de flash. Là, on a un mode Wi-Fi qui permet de prendre le contrôle de l'appareil à distance, donc changer la vitesse, l'ouverture, l'ISO, toutes ces choses-là. Et ça fonctionne très bien. Le jumelage se fait bien. Il manque encore un tout petit quelque chose côté Wi-Fi, mais celui-là fonctionne mieux que bien d'autres que j'ai essayé. Et ce qui est génial, c'est qu'avec l'écran tactile, pour entrer un mot de passe de Wi-Fi et compagnie,
ça va beaucoup mieux.
Et moi, ben, mon routeur ne partage pas son identifiant, donc je dois taper le nom aussi. Et là, ben, avec l'écran tactile, ça allait très bien. Écoutez, bon, il y a des petits points négatifs que je vais quand même nommer pour être juste.
Et le prix?
Non, ben c'est pas si cher. Non, hein? Il est comme 1300, je pense, le boîtier. Moi, quand j'ai acheté le 60D, ça faisait déjà un an et des poussières qui étaient sorties. Puis il était à 900, 800 ou 900. Donc, dans un an, peut-être qu'il va être baissé à 1000, puis c'est très abordable. Mm. Mais non, dans les points négatifs, bon, c'est que la tropicalisation, même sur le Sony eux-mêmes, affirme quelque chose, puis tu lis dans les forums autre chose, puis... En tout cas, je ne me risquerais pas à aller faire une session de photo sous la pluie battante pour tester la tropicalisation.
Je l'osais même pas, même avec le mien. Fait que,
non, c'est ça. Donc, un autre truc qui est dommage, c'est qu'on trouve pas de prise pour un casque d'écoute pour filmer. Donc, c'est sûr que ça aurait pas été un candidat lors du magasinage de Benoît Chamontin pour remplacer son appareil. Bon, le mode Wi-Fi aurait pu être un petit peu plus intuitif parce que j'ai pas réussi à comprendre tous les modes, parce qu'il y a plusieurs modes Wi-Fi qui sont proposés. J'ai pas réussi à les comprendre sans passer par le manuel d'utilisation. Donc, c'est encore du petit travail à faire de ce côté-là.
Ça devrait être facile.
Oui,
mais
c'est que ça te permet de transférer tes images sur un appareil mobile, sur un PC, sur un autre appareil photo, de prendre le contrôle à distance. Et qu'il y a beaucoup... c'est quand même flexible, si tu veux, comme mode Wi-Fi, mais c'est pas assez intuitif encore. Il manque juste un petit quelque chose. Vraiment pas grand-chose, mais ça s'en vient.
C'est tout le temps comme ça. Ouais. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs.
Mais l'expérience a été moins frustrante qu'avec beaucoup d'autres appareils qui étaient équipés du Wi-Fi. Mais bon, c'est pas mal tout parce que Canon a revu l'ergonomie de la plupart des trucs, a rajouté des trucs incroyables là-dedans, dont le capteur à double pixel. C'est vraiment, comme je vous dis, si j'avais pas eu un 60D, moi je l'achetais sur le champ.
C'est pas pire. Hein? Avez-vous fait le calcul avec moi? Il parle de dépenses de 5 000 $ juste pour cet épisode-ci.
Ouais, non, quand même, ouais, ouais, non, c'est ce que j'ai dit. Si j'avais pas eu le 60D ni le Nexus, si j'ai. Ouais,
si passais... t'avais ni l'un ni l'autre, t'aurais eu un 70D puis une A7R quand même.
Non, j'aurais pas acheté les deux quand même.
Ouais, c'est ça.
Bon, j'ai pas un budget infini, loin de là. Mais non, c'est
mais
ça.
Mais s'il y en a qui veulent nous le donner, là,
tu sais, oui, toujours absolument. Volontaire. On est preneurs. On en aurait besoin de 3, s'il vous plaît. Alors, ça conclut cet épisode. N'oubliez pas de venir vous joindre au groupe Photographe Amateur sur Google+. Ne faites pas comme François.
Ne faites pas comme moi.
Non, mais on a dépassé 525 membres. Ça continue d'augmenter constamment. Il y a des photos incroyables de macros, d'insectes, de fleurs, des gens qui publient des photos de voyage. On donne des trucs, on en reçoit. C'est vraiment une communauté géniale. Il y a des gens qui reviennent parfois après un certain temps, puis ils réalisent à quel point ils ont manqué toutes ces photos-là, puis là, ils se remettent à publier des photos, puis c'est vraiment... Il y a une bonne dynamique dans le groupe. Et puis, donc, vous cherchez, au pluriel, photographe amateur sur Google+. Et puis, n'oubliez pas d'aller voter pour le défi numéro 8 sur la nuit. Pour permettre à l'un des participants de gagner un abonnement d'un an à Zenfolio. Pour nous rejoindre par courriel, c'est podcast@objectifnumérique.com, sur Twitter, au numérique, et sur les autres réseaux sociaux, Google+ et Facebook, vous cherchez Objectif Numérique. Merci beaucoup, François.
Merci beaucoup.
Merci, Christian.
Merci beaucoup.
Et merci beaucoup, chers auditeurs. À la prochaine.